Ok, on va commencer notre 14e leçon dans notre série sur la souveraineté de Dieu. Alors, on a vu différentes facettes à venir jusqu'ici. Aujourd'hui, on va regarder la souveraineté de Dieu et la grâce irrésistible. Alors, la grâce irrésistible, c'est une notion qui est importante à comprendre pour qu'on puisse bien comprendre les différentes facettes du salut. Si on arrive à donner une définition simple de ce que c'est la grâce irrésistible, ce serait la suivante. La grâce irrésistible, c'est la doctrine biblique qui soutient que Dieu le Saint-Esprit n'échoue jamais à amener au salut les pécheurs qu'il appelle personnellement à Christ. Il applique inévitablement le salut à chaque pécheur qu'il a l'intention de sauver, et c'est son intention de sauver tous les élus. Alors, pour comprendre, bien comprendre qu'est-ce que c'est la grâce irrésistible, on se doit de faire une distinction entre deux choses. Ce qu'on appelle l'appel général extérieur et l'appel spécial intérieur. Alors, disons que le Seigneur me donnerait de mettre toute la ville de Mégantic devant moi. Disons, juste pour illustrer. Il y aurait, disons, 3 ou 4 000 personnes, disons. Je pourrais donner le message de l'Évangile avec beaucoup d'éloquence, avec tout ce que je suis capable, toutes mes connaissances et du mieux que je peux, à 4000 personnes. Ça se pourrait qu'il y en ait juste 10 qui entendent véritablement ce que je suis en train de leur dire. Les autres, ça passerait par une oreille, ça sortirait par l'autre. Alors, ce qu'on appelle l'appel extérieur, c'est qu'on annonce l'Évangile aux gens et on fait un appel à se convertir, on fait un appel à croire au Seigneur Jésus, on fait un appel à la repentance. Comment ça se fait qu'il y en a que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre? Ça, c'est l'appel général extérieur. Les prédicateurs, depuis des siècles, font ça. Ils prêchent à des assemblées, à des gens, ou même sur une base individuelle. On présente le salut à un, on peut l'avoir présenté à 50 personnes dans notre vie, peut-être plus. Et des fois, sur les 50, il y en a 49 qui n'ont pas compris. Puis d'un coup, une bonne journée qu'on le présente à un et là, il comprend. C'est-tu parce qu'il est plus intelligent qu'un autre ou bien non, c'est quelque chose de spirituel qui s'est passé dans sa vie? Notre réponse, c'est que selon les Écritures, c'est quelque chose de spirituel, de spécial. On appelle l'appel spécial du Saint-Esprit. Donc, il y a l'appel général. S'il y aurait toute la ville de Mégantic devant moi, puis je prêcherais l'Évangile, je leur dirais, repentez-vous, vous allez en enfer, vous êtes pécheurs, vous êtes perdus, vous êtes condamnés, et je leur dirais tout le message au complet. Ça pourrait arriver qu'il n'y en ait aucun qui vienne. Comme ça pourrait arriver qu'il n'y ait 10, n'y ait 5, n'y ait 3. Comment ça se fait qu'il y en a qui comprennent et qu'il y en a d'autres qui ne comprennent pas? C'est l'appel, ce qu'on appelle l'appel spécial du Saint-Esprit. Alors, celui qui entend l'Évangile ne l'a pas entendu, il l'a entendu véritablement, il ne l'a pas entendu uniquement avec ses oreilles physiques. Il les a entendues avec ses oreilles spirituelles. Savez-vous, quand vous lisez l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, ça veut dire que l'Esprit parle, puis il y en a qui ne comprennent pas, puis l'Esprit parle, puis il y en a qui comprennent. Alors, l'appel extérieur, général, est fait, bien entendu, à tous. Cet appel-là promet le salut à ceux qui se repentent et qui croient en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Cet appel est souvent inefficace parce qu'il n'amène pas les pécheurs à Christ. La raison de l'inefficacité est que les hommes sont morts spirituellement, tel que les Écritures nous le disent, dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Les hommes sont morts spirituellement. Être mort spirituellement, ça veut dire que si vous avez quelqu'un, vous allez au salon chez Jacques et frère, ou Jacques et fils maintenant, et qu'il y a un mort dans la tombe, puis vous allez le voir, vous dites, « Hey, je connais bien ton frère. » Il n'aura pas de réponse. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Il est mort. Il n'entend plus. Mais les Écritures nous disent que les êtres humains, avant d'être régénérés, d'être nés de nouveau par le Saint-Esprit, sont morts spirituellement. Quand tu parles d'un mort, il n'y a rien qui se passe. Alors, il faut que la personne naisse de nouveau. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne prendre vie dans l'âme de la personne et lui ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles. Le fait qu'il est pécheur, le fait qu'il y a seulement une condition, il est déjà condamné à l'enfer s'il se repent pas, et qu'il y a une seule solution, et c'est Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, ce qu'il a fait sur la croix. Alors, sont morts, sont dominés par Satan, comme les Écritures nous le disent, et sont dominés aussi par les péchés. Et les Écritures nous disent que l'homme, par lui-même, est incapable de se tourner vers Christ pour demander miséricorde. Et, bien souvent, vont refuser volontairement de quitter leur mauvaise voie. La preuve, c'est que s'il y avait 4 000 personnes de la lac mégantique devant moi, puis je leur dis « Vous êtes pécheurs », puis je leur parle d'un paquet de péchés qu'ils font, je leur dis « Détournez-vous, si vous ne vous détournez pas, vous allez mourir comme ça, vous allez mourir dans vos péchés, vous allez en enfer. Est-ce que vous croyez que sur les 4 000... » Les gens ne changeront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'entendent pas avec leurs oreilles spirituelles. Alors, les personnes qui sont irrégénérées ou qui ne sont pas nées de nouveau, c'est deux mots qui veulent dire la même chose, régénérées, nées de nouveau, qui ne sont pas nées de nouveau par le Saint-Esprit, ne répondent pas à l'appel de l'Évangile qui est la foi en Dieu et en Jésus-Christ et aussi la repentance. Les deux vont ensemble, la foi et la repentance. Alors, l'expérience des prédicateurs du monde entier démontre que ni les menaces de la condamnation à l'enfer, aussi éloquentes et puissantes soient-elles, ni les promesses de pardon des péchés, ni la promesse d'obtenir la vie éternelle ne sont efficaces. Bizarre, pareil. Hein? On lui promet tout ce qu'il y a de plus merveilleux, puis on dirait qu'ils sont sourds, ils ne comprennent pas. Alors, les pécheurs sont aveugles, selon les Écritures, sourds et rebelles aussi à l'idée de se prosterner et de reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et à ne regarder qu'à lui pour la destinée éternelle de leurs âmes. Un tel acte de foi et de soumission est contraire à la nature de l'homme déchu. Maintenant, s'il y a des personnes qui répondent, il y a des personnes qui comprennent, puis il y a des personnes qui naissent de nouveau, ils comprennent leur état de perdition, de pécheur perdu, et qui décident de suivre Jésus-Christ et de reconnaître que le seul salut est possible dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ, à quelque part, il faut que ça soit passé quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'appel spécial intérieur. Alors, ça se passe, l'autre, ça se passe juste au niveau des oreilles physiques, celle-là se passe au niveau des oreilles spirituelles. Alors, cet appel est reçu en plus de l'appel général extérieur. Les mêmes personnes ont entendu les mêmes mots, on a parlé des mêmes concepts, puis il y en a qui allument, puis il y en a qui n'allument pas. Ceux qui allument, c'est parce que le Saint-Esprit a déjà agi dans le cœur de la personne en le régénérant, en lui donnant la vie nouvelle, la vie. Il est né de nouveau. Il est à mort spirituellement, maintenant il est vivant, et là il comprend quelque chose. Quand on lui dit que les Écritures disent qu'il est perdu, il se reconnaît comme étant perdu. Quand la Bible dit qu'il est pécheur, il se reconnaît comme un pécheur. Quand la Bible dit que Jésus est la seule solution possible pour lui enlever son péché et lui donner la vie éternelle et lui donner le pardon de ses péchés, à un moment donné, la personne, à cause qu'il a reçu le Saint-Esprit, maintenant est capable de... Il y a une ouverture, une compréhension, une réception, une acceptation de toutes ces idées-là simultanément. Alors, la doctrine de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit est expliquée par Jésus lui-même dans l'Évangile de Jean. Vous connaissez tout ce passage-là, mais on va la reprendre ce matin. L'Évangile de Jean, chapitre 3. On sait tout Jean 3,16, mais quand on prend la peine de lire l'ensemble du chapitre, ça nous démontre comment ça se passe, cette histoire-là, d'appel spécial intérieur par le Saint-Esprit. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, qui était l'un des principaux d'entre les Juifs. Autrement dit, c'était une personne qui était un docteur de la loi pour les Juifs. À l'époque, c'était un homme très, très savant pour les Juifs. Lequel vint de nuit à Jésus. Ça explique quelque chose. Pourquoi il vient de nuit? C'est parce qu'il avait peur des jugements de ses confrères et du peuple juif. Et lui dit, là il parle à Jésus, lui dit, « Maître, Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand le Seigneur, dans les Écritures, vous remarquerez ça, chaque fois que le Seigneur dit en vérité, c'est parce qu'il veut insister sur une idée très importante. Et lui, il dit deux fois, en vérité, je te dis, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment peut naître un homme quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Alors, il n'avait rien compris. Qu'est-ce qu'il comprenait? Il comprenait naître de nouveau, qu'il fallait qu'il rentre dans le ventre de sa mère et qu'il ressorte encore. Seigneur, il dit, c'est pas de ça que je te parle. Alors, verset 5, Jésus répondit, encore une fois, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Autrement dit, c'est l'aspect imprévisible. Le vent, tu ne sais pas ce qui vient, tu ne sais pas ce qui va, mais à un moment donné, tu sais qu'il agit. Alors, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il arrive dans la vie d'une personne et il agit dans la personne. Il la fait naître de nouveau. Nicodème, verset 9, lui répondit et lui dit, comment se peuvent faire ces choses? Jésus, verset 10, Jésus répondit et lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais point ces choses? Verset 11, en vérité, je te dis, ce que nous savons, nous le disons. Et ce que nous avons vu, nous le témoignons. Mais vous ne recevez point notre témoignage. Verset 12. Si je vous ai dit ces choses terrestres et vous ne les croyez point, comment croirez-vous si je vous dis les choses célestes? Verset 13. Car personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est au ciel. Et après ça, il utilise l'image de l'Ancien Testament où les Juifs étaient dans le désert. Et il avait été mordu par des serpents. Et si Dieu n'avait pas pourvu au serpent des reins, il fallait qu'il regarde au serpent, sinon il mourrait. Et là, le Seigneur se sert de cette image-là pour leur faire comprendre l'idée que quand tu es mort, il faut que tu regardes à Jésus. Verset 14, Or, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 16, ça c'est le verset le plus connu de toutes les Écritures. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Écoutez bien le verset 18. Je dirais ça devant 4000 personnes. Comment ça se fait qu'ils ne comprennent? Comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas? Celui qui croit en lui, en parlant de Jésus, celui qui croit en lui ne sera point condamné. Mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19, or c'est ici le sujet de la condamnation. Que la lumière est venue au monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20, car quiconque s'adonne à des choses mauvaises est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient censurées. Mais celui qui s'adonne à la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites selon Dieu. Voyez-vous, c'est un passage des Écritures qui est d'une importance capitale de comprendre l'idée de la nouvelle naissance. D'ailleurs, il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Donc, il faut l'intervention du Saint-Esprit lui-même pour nous donner la vie, alors qu'on y est mort spirituellement. Et par cette vie-là, on est capable de comprendre notre état de perdition, notre état de pécheur, notre état de condamnation, et de réaliser que la seule solution pour nous sortir de ce marasme terrible-là, c'est de croire en la personne de Jésus-Christ, qui a reçu, qui s'est substitué à nous, chaque pécheur élu, qui s'est substitué à nous pour recevoir le châtiment que nous aurions dû recevoir, il l'a reçu à notre place. Et la deuxième partie, qu'on appelle l'obéissance active, l'obéissance passive, il a accompli à la perfection le décalogue, la loi de Dieu à la perfection durant toute sa vie. Il n'a pas manqué une seule fois, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions, ni des péchés par omission, ni des fautes secrètes, aucun péché. Et c'est les nôtres qu'il a accepté lui-même de subir le châtiment que nous aurions dû avoir à notre place. Et si on réalisait pleinement, là, d'un coup sec, là, si le Seigneur nous donnait une pleine compréhension de ce qui est dit là, prendre notre punition, là, l'équivalent de ce que nous aurions dû subir en enfer, c'est quelque chose de tellement grand. Il a accepté de le subir à notre place. C'est tellement profond, tellement riche. Prions le Seigneur de nous faire voir de plus en plus la grandeur de l'amour qu'il a eu. Puis ça prend un amour extraordinaire pour cela. Alors, la nouvelle naissance par le Saint-Esprit amène le pécheur à se reconnaître pécheur et à reconnaître aussi qu'il mérite l'enfer éternel et qu'il est déjà condamné, à moins de recevoir la grâce de Dieu. Elle l'amène aussi à découvrir la seule solution pour sortir de sa condition qui est absolument désespérée. Et cette solution-là, bien entendu, on le sait, c'est la glorieuse personne de Jésus-Christ, qui était Dieu incarné dans la chair, dans une chair d'homme, et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, comme je vous ai dit tantôt, subir le châtiment, qui aurait dû être celui des élus à leur place, et aussi, si ça avait été juste ça, on n'ira pas au ciel. Il faut, en même temps, qu'on ait, soit que ce soit nous qui l'ait fait, accomplir la loi, la perfection. Imaginez. Moi, je viens de finir un livre sur le péché, là, puis je peux vous dire une chose. Il y en a du péché dans nos vies. Même après qu'on est régénéré, il y en a pas mal plus qu'on croit. Alors que le Seigneur ait tout balayé ça, tout pris sur lui-même, et le plus petit péché qu'on peut commettre dans nos vies nous méritait d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Un seul péché, le plus petit de tous. On n'a pas conscience jusqu'à quel point Dieu est d'une sainteté, mais d'une sainteté qu'on ne peut même pas imaginer. À cause de notre état de dépravation, on oublie ça des fois. Quand on offense Dieu, on l'offense d'une façon infinie. C'est pour ça que la réponse au péché, les péchés se doivent d'être jugés. Et comme Dieu est infini, qu'on l'offense d'une façon infinie, automatiquement, la punition qui va avec se doit d'être infinie aussi. C'est quelque chose à réfléchir. Il y a un chapitre complet dans le livre que je suis en train de lire, « The Sinfulness of Sin » de Ralph Denning. Il y a à peu près 50 pages sur l'enfer. C'est vraiment le même. Je n'ai lu des passages sur l'enfer, je n'ai lu des livres sur l'enfer. Mais celui-là, là, il dépasse tout ce que j'ai lu. Parce que si tu lis ça, puis tu trembles pas, là, quelque part, parce que c'était pas normal. Parce que si tu t'en allais là, mon ami, là, tu t'apercevrais que c'est pas un endroit agréable à vivre. Puis c'est pas rien que pour 2 jours, pas rien que pour 1 mois, pas rien que pour 6 mois, pas rien que pour 1 an, pas rien que pour 10 ans, pas rien que pour 20 ans, pas rien que pour 100 ans. L'éternité, ça finira jamais. C'est incroyable. Il nous a libérés de cela. Alors, quand on vit en culte, bien sûr, on se devrait d'être dans la joie. Le Seigneur nous a libérés d'une affaire extraordinairement. Et en plus de nous avoir libérés, il a fait de nous ses enfants, il nous a adoptés et il nous a donné la vie éternelle qu'on va vivre dans le ciel, dans le parfait bonheur pour toute l'éternité. C'est tellement grand le salut du Seigneur. Alors, quand le Seigneur vient par le Saint-Esprit donner la vie nouvelle à un pécheur, ce pécheur-là, maintenant, il se produit un changement radical dans sa vie. Il y a le phénomène qu'on appelle la conversion. La conversion, ça comporte 2 aspects. Se tourner vers Dieu et se détourner du péché. Se tourner vers Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ, et se tourner vers Maintenant, l'obéissance aux Saintes Écritures, on sait que c'est là qu'il nous a dit sa volonté, donc c'est là qu'il faut aller chercher ce qu'il veut de nous. Et aussi, se détourner du péché, quelqu'un ne pourra pas dire juste « Ah, ben moi, je crois au Seigneur Jésus, il est venu sur la terre, il a fait ci, il a fait ça. » C'est plus que ça. Il faut qu'il y ait une repentance. La repentance, c'est se détourner du péché. C'est 90 degrés. Disons que je m'en vais vers Sherbrooke, bien, si je veux m'en revenir à mes cantiques, il faut que je fasse un 90 degrés. Alors, c'est exactement la même chose. Tu t'en vas vers l'enfer et il faut que tu fasses un 90 degrés. Tout ce que tu aimais, on se vaut dans le péché quand on est pécheur. Et à quelque part, tout ce que tu aimais, tu te dois de l'abandonner et pratiquer maintenant la repentance. Maintenant, le pécheur régénéré. À partir du moment où Dieu t'a donné par le Saint-Esprit, t'a ouvert les yeux, Dieu te donne des oreilles spirituelles. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du passage dans le livre des Actes où on parle de la marchande de pourpre. Et qu'est-ce que le passage nous dit? Jésus lui a ouvert le cœur. C'est ça la nouvelle naissance. Quand Dieu te ouvre le cœur, tu comprends des choses que tu n'avais jamais compris avant. Donc, tu étais sourd, tu étais aveugle, tu étais mort, et maintenant tu vois, tu as des oreilles pour entendre, et maintenant tu comprends que tu ne seras pas condamné. Donc, il se voit donner des yeux, des oreilles spirituelles qui entendent maintenant les choses de Dieu. Le Saint-Esprit crée dans le pécheur régénéré ce qu'on appelle un cœur nouveau. Et par le fait même, fait de lui, il lui donne une nouvelle nature. Avant, on n'avait rien qu'une nature, c'était notre nature pécheresse. Et on avait juste le goût de pécher, et le malin avait un contrôle à peu près parfait sur nous, il nous faisait faire à peu près tout ce qu'il voulait, comme il voulait. Maintenant, il nous donne la nouvelle nature. La nouvelle nature, c'est le fait qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit nous habite, et maintenant, on a un outil pour être capable, et un outil d'une puissance, capable de contrôler notre vieille nature. Et même comme régénéré, si on ne fait pas attention, là, notre vieille nature peut nous ramener dans le péché. Il faut continuellement prier, il faut continuellement être vigilant pour que, dans les deux natures, moi je me souviens d'avoir déjà lu un livre, c'était un Africain. Il dit, avant que je sois né de nouveau, il dit, je faisais ce que je voulais, puis il dit, maintenant, il dit, c'est comme... Il y a une bataille à l'intérieur de mon âme. Je sens qu'il y a une bataille. C'est comme s'il y avait deux chiens qui sont continuellement en train de se vouloir se dévorer l'un l'autre. Mais il faut que ça soit le Saint-Esprit. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit dominer sur ta vieille nature. Parce que si on ne fait pas attention, la vieille nature peut très rapidement vouloir reprendre sa place. Mais si on fait attention et qu'on laisse le Saint-Esprit dominer, à ce moment-là, Dieu permet... Qu'on fasse, comme s'il dit, je pense que c'est dans Romains 8, 14, on fait la mortification de notre vieille nature, la mortification de notre péché. On la rend mortifiée, ça veut dire qu'on essaye de la tuer, mais on n'arrivera jamais, là. On ne la tue jamais complètement. Mais on peut l'affaiblir beaucoup. Alors, on va regarder maintenant, alors bien entendu, l'appel spécial du Saint-Esprit n'échoue jamais. Alors, il résulte toujours en la conversion du pécheur. Et cet appel spécial du Saint-Esprit n'est fait qu'au pécheur élu. Le Saint-Esprit n'est en aucune façon dépendant de l'aide ou de la collaboration de l'homme pour le succès de son œuvre. Autrement dit, vu qu'il est Dieu, quand il décide qu'il sauve une personne, ça se produit toujours parce que tout ce qu'il fait, c'est toujours parfaitement efficace. Alors, pour ces raisons-là, les théologiens, comme vous le disiez dans les livres de théologie, ils ont appelé cet appel-là l'appel irrésistible. C'est ça qu'on dit, l'appel irrésistible. Le Saint-Esprit fait un appel à ton âme et tu réponds parce que c'est lui qui te donne la vie. Bien simple. Et cet appel-là, non seulement il est irrésistible, mais il est efficace, puis il est invincible. Invincible, vous avez dit, tu ne peux pas résister vraiment, il te donne la vie. Donc la grâce du Saint-Esprit aux élus ne peut pas être refusée ou contrecarrée. Alors on va juste simplement faire un bref rappel concernant le salut, que le salut est l'œuvre du Dieu trinitaire. On l'avait déjà mentionné dans les leçons précédentes. Alors ça veut dire que Dieu le Père, Son œuvre dans le salut, c'est quoi? L'élection. L'œuvre du Fils dans le salut, c'est quoi? La rédemption. L'œuvre du Saint-Esprit dans le salut, c'est quoi? La régénération et la sanctification. Alors, le salut, c'est l'œuvre du Dieu trinitaire. C'est pour ça que quand Dieu sauve vraiment quelqu'un, il va se rendre jusqu'au bout, jusqu'au ciel. Parce que c'est lui qui a fait le travail. Ceux qui ont juste professé être chrétiens, qui ne l'étaient pas vraiment, ils vont abandonner en cours de route. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas reçu la véritable foi en Jésus-Christ. Alors, on va regarder Romains, on va regarder quelques versets qui vont nous rappeler que le salut est l'œuvre du Dieu trinitaire. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Alors, si on est des chrétiens, on est automatiquement conduit par l'Esprit de Dieu et on devient des enfants de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 14. Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui est-ce des hommes qui sachent les choses de l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, nul n'a connu les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous avons non point l'Esprit de ce monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous reconnaissions les choses qui nous ont été données de Dieu, lesquelles aussi nous proposons, non point avec les paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or, l'homme animal ne comprend point les choses. L'homme animal, là, parce qu'on est porté à penser, l'homme animal, c'est simplement l'homme qui n'a pas encore reçu le cadeau de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Et ça dit que l'homme animal, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. L'homme animal ne comprend point les choses de Dieu. Dieu parle, puis ça part par l'oreille, ça part par l'autre. Lui dit que c'est en mon enfer. Ça a l'air à laisser complètement indifférent. Si Dieu ouvrait leur esprit, ne serait-ce que 5 secondes, pour qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce que c'est l'enfer, ils seraient terrorisés, les cheveux leur blanchiraient sa tête. Alors, quand les personnes, ça témoigne que les personnes sont morts spirituellement et ne réalisent pas pleinement ce qui se passe. C'est juste quand on est régénéré qu'on prend conscience de ces choses-là. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez point vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. » C'est sévère. « Et quelques-uns de vous étiez tels, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. » C'est important de saisir ça. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. « C'est pourquoi je vous fais savoir que nul homme, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus doit être rejeté, et que nul homme peut dire que par le Saint-Esprit que Jésus est le Seigneur. » Autrement dit, un homme ne peut pas dire que Jésus est le Seigneur s'il n'est pas déjà régénéré. On peut le dire avec des mots, mais quand on dit que Jésus est le Seigneur, il faut que je comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Jésus est le Seigneur, ça veut dire qu'il a tous les droits sur moi, il a le droit de dominer sur moi, il a le droit sur ma vie au complet. Si je dis Jésus est le Seigneur, moi dans mon cœur, je comprends qu'est-ce que ça veut dire, puis je dis oui, amen à ça. Mais un païen, il peut le dire, Jésus est le Seigneur, mais s'il ne comprend pas ce qu'il dit, c'est des mots vides, des creux. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 6. Or, nous avons une telle confiance en Dieu par Christ. Non que nous soyons capables de nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus aussi capables d'être les ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur est cet Esprit-là, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui contemplons Comme en un miroir, la gloire du Seigneur à face découverte, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Oui, oui, par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur. Ça revient continuellement. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, envoyé de Jésus-Christ, aux élus, voyageurs de la dispersion dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Élus, selon la préconnaissance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour apprendre l'obéissance et recevoir l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que grâce et paix vous soient multipliées. Donc, le salut est l'œuvre du Dieu Trinitaire. On vient de regarder différents versets pour nous parler de ça. Deuxième idée, on va regarder si la régénération est l'œuvre vraiment du Saint-Esprit. Qui est l'auteur de la régénération, de la nouvelle naissance? Les Écritures nous disent que c'est le Saint-Esprit. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. » Jean chapitre 3, verset 3 à 8, Jésus répondit, il lui dit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment peut naître un homme quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Tite, chapitre 3, verset 5. « Mais quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non par des œuvres de justice que nous eussions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » 1 Jean, chapitre 5, verset 4. « Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. » Et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Donc, c'est par le Saint-Esprit que tu as la victoire. Donc, l'auteur, c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que Dieu se sert du Saint-Esprit? C'est une personne. Mais est-ce qu'il se sert aussi en même temps d'un instrument? J'avais déjà trouvé dans un livre une image très intéressante concernant la façon dont ça se passe pour sauver quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est le musicien. Et le son qui sort d'un instrument, l'instrument, c'est la parole de Dieu. Un instrument dans lequel tu ne souffles pas, il ne sort pas de son. Il faut que l'Esprit souffle dans son instrument, qui est la parole de Dieu. Comme on disait tantôt, 4000 personnes de mégantiques devant moi, je leur prêche l'Évangile, disons qu'il y en aura deux qui auraient compris. Bon, bien, le Seigneur a soufflé, le Saint-Esprit a soufflé dans sa parole pour que ces personnes-là entendent qu'est-ce qui se doit d'être entendu. Donc, l'instrument de la régénération, c'est la parole de Dieu. L'auteur, le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui souffle dans sa parole. Des fois, on peut avoir lu un traité. Moi, je me souviens qu'avant d'être né au Seigneur, il y en a plusieurs qui m'avaient donné des traités ici et là, des petites affaires, des petits dépliants, toutes sortes d'affaires. Je disais ça, puis ça me passe par un arrière, ça sort par l'autre. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a donné un petit Nouveau Testament des Gédéons. Et là, c'était le moment que Dieu avait choisi et la façon dont Dieu m'a fait comprendre qui j'étais. Et en lisant mon petit Nouveau Testament, là, c'est comme... On aurait dit que je comprenais tout. C'est que... Ben là, c'est parce qu'il s'était passé quelque chose dans ma vie. Le Seigneur m'avait régénéré et maintenant, ce qu'il disait dans sa parole, je trouvais que ça avait plein de sens, puis j'avais le goût de mieux connaître Jésus-Christ, j'avais le goût de le suivre, et j'avais le goût, maintenant, la Bible, ça me disait, je ne trouvais pas ça un livre ennuyant, poussiéreux, il devenait vivant, il devenait intéressant. Alors ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors le Saint-Esprit est l'agent, l'auteur de la régénération, mais il se sert toujours de la parole de Dieu. C'est rare que vous allez entendre parler d'un témoignage de quelqu'un qui a été sauvé, qui n'avait pas de la parole de Dieu dans ça. ou ben non, c'est un Nouveau Testament, ou c'est la Bible, ou c'est des versets qu'il a entendus. J'ai déjà raconté l'histoire de Arthur Pink, qui était, il s'en allait dans les affaires de Nouvel Âge par-dessus sa tête. Il était un écrivain de premier ordre. Et il s'en allait là-dedans, puis il avait été élevé chrétiennement. Un soir, il revient d'un meeting avec ces gens-là, et son père lui dit: tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Pink, il raconte dans sa biographie: j'ai monté en haut, et là, le verset s'est mis à me résonner dans la tête, au point qu'il n'a pas été capable de dormir de la nuit. Il a compris, un verset a sauvé son âme de la perdition. Alors, c'est le Saint-Esprit qui a soufflé dans ce que son père a dit. Son père aurait pu dire ça, puis ça a pas passé par en arrière, puis ça aurait sorti par l'autre. Pourquoi il a compris ce fois-là? Et il a compris que l'éducation chrétienne qu'il avait reçue quand il était jeune, c'était la vérité, et maintenant il avait le goût de suivre Jésus-Christ. Et il est devenu un très, très grand écrivain chrétien, qui, moi, je l'ai lu, j'ai pas tout lu ce qu'il a écrit, mais il a écrit énormément. Et tout ce que j'ai lu de lui m'a profondément béni. Alors, OK. Donc, l'instrument, c'est la parole de Dieu. Maintenant, le pécheur élu, comme on a dit tantôt, il reçoit une nouvelle nature. Alors, Deutéronome, chapitre 30, verset 6, ça dit: Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, afin que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Ézéchiel, chapitre 11, verset 19: Et je ferai qu'ils n'auront qu'un cœur, et je mettrai au-dedans d'eux un esprit nouveau. Et j'ôterai le cœur de pierre hors de leur chair, et je leur donnerai un cœur de chair. Alors, autrement dit, avant d'être né de nouveau, notre cœur était dur comme de la pierre, et maintenant, par le Saint-Esprit qui vit en nous, notre cœur est devenu un cœur de chair. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marcherez dans mes statuts, et que vous garderez mes ordonnances et les ferez. Galates, chapitre 6, verset 15, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les prépuces n'ont aucune efficace, mais la nouvelle créature. Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées, afin que nous marchions en elles. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 et 18. Autrement dit, verset 17 et 18, il est en train de dire qu'on est une nouvelle création. On est une nouvelle créature à partir du moment où Dieu nous a donné son esprit, la nouvelle naissance. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, l'auteur de la régénération, le Saint-Esprit, qui se sert de l'instrument de la parole, le pécheur reçoit une nouvelle nature, et la troisième idée, le pécheur élu a été rendu vivant, parce qu'il était mort avant. Jean 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. C'est fort, hein? De même que le Père ressuscite les morts, de même aussi le Fils vivifie, rend la vie, donne la vie à celui qu'il veut. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Et lorsque vous étiez morts en vos fautes et en vos péchés, on ne l'invente pas, là, c'est les Écritures qui nous disent. On est à mort dans nos péchés, dans nos fautes, dans lesquels vous avez marché autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'Esprit, qui agit maintenant avec efficacité dans les enfants rebelles à Dieu, entre lesquels aussi nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions de notre nature des enfants de colère comme les autres. On n'est pas plus fin que les autres. On a reçu un cadeau de Dieu, c'est pas parce qu'on est plus fin qu'un autre. mais comme les autres, mais verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par sa grande charité, de laquelle il nous a aimés, lors, dis-je, que nous étions morts en nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ par la grâce duquel vous êtes sauvés. Des passages tellement riches. Et Colossiens, chapitre 2, verset 13. Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans le prépuce de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses. Quand on pense à ça, aujourd'hui, ça fait proche de 40 ans, je suis sauvé. Donc, il m'a pardonné les péchés que j'ai faits avant mon salut. Il m'a pardonné les péchés que j'ai faits depuis mon salut jusqu'à aujourd'hui. Il va me pardonner de tous les péchés que je vais faire aujourd'hui. Et il a déjà pardonné tous les péchés que je vais faire avant de mourir. Il nous a pardonné toutes nos offenses. Et il a payé pour chacune d'entre elles. De quelque nature qu'elle soit, que ce soit dans nos pensées, des péchés d'action, des péchés d'omission, des péchés par la langue, des péchés. On en fait tellement, des fois, on ne se rend même pas compte de tout ce qu'on a fait. On va faire encore un autre petit bout. La troisième idée, c'est que la révélation intérieure, autrement dit, que Dieu révèle, il nous fait comprendre qui nous sommes, il nous fait comprendre qui Christ est, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu révèle à ses élus les secrets de son royaume à travers la révélation intérieure qui est donnée par son Saint-Esprit. Il fait comprendre à l'élu sa condition de pécheur perdu et condamné et lui révèle la glorieuse personne de Jésus-Christ et de son œuvre de salut qu'il a envers lui. Matthieu 1, versets 25 à 27. Que j'aime ce passage-là. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit: Je te célèbre, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. Il en est ainsi, ô mon Père, parce que telle a été ta bonne volonté. Toutes choses m'ont été accordées par mon Père, mais personne ne connaît le Fils que le Père. Et personne ne connaît le Père que le Fils et celui à qui le Fils l'aura voulu révéler. C'est fort, hein? Luc 10, versets 20 à 22. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais plutôt réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce même instant, Jésus se réjouit en esprit et dit: Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. Il en est ainsi, ô Père, parce que telle a été ta bonne volonté. Toutes choses m'ont été données en main par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, ni qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils l'aura voulu révélé. C'est deux passages parallèles, mais c'est. Et on va en lire un autre, Matthieu 13, versets 10, 11 et verset 16. Alors les disciples s'approchant lui dirent: Pourquoi leur parles-tu par des similitudes? Il répondit et leur dit: C'est parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que pour eux, il ne leur a point été donné de les connaître. Verset 16: Mais vos yeux sont bienheureux car ils voient, et vos oreilles sont bienheureuses car elles entendent. Pourquoi on voit, pourquoi on entend? Parce que le Saint-Esprit nous a donné la vie. Luc 8, verset 10. Et il répondit: Il vous est donné de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais il n'est parlé aux autres qu'en similitude, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Matthieu 16, versets 15 à 17, beau passage aussi. Et il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondit et dit, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne te l'a pas révélé, mais mon Père qui est aux cieux. » Autrement dit, le fait que Pierre comprenne qui Jésus était, qu'il était le Christ, ce n'était pas parce que Pierre était particulièrement intelligent et qu'il saisissait les choses, les autres ne saisissaient pas. Le Seigneur lui-même lui dit, « Si tu sais qui je suis, c'est parce que mon Père te l'a donné et tu comprends à cause que tu l'as reçu de Dieu le Père. » Et on va lire le dernier passage, Jean chapitre 6, verset 37, versets 44 et 45, versets 64 et 65. Jean chapitre 6 est un chapitre très intéressant concernant la grâce irrésistible, le salut souverain de Dieu, etc. Jean 6, verset 37. Tout ce que mon Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Versets 44 et 45. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque donc a écouté le Père et a été instruit de ses intentions, vient à moi. Et dans le verset 64 et 65, mais il y en a plusieurs d'entre vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui seraient ceux qui ne croiraient point et qui serait celui qui le trahirait. Il leur dit donc, c'est pour cela que je vous dis, que nul ne peut venir à moi s'il ne lui a été donné de mon Père. Tellement des beaux versets. C'est des versets à étudier, à approfondir, à méditer. On va arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la deuxième partie la semaine prochaine. Alors, on va prier. Notre Dieu, notre Père, on veut te rendre grâce de ce que tu nous révèles des vérités sur le salut, des vérités très importantes. La grâce irrésistible, Seigneur, on sait que sans l'aide de ton Saint-Esprit, sans cette nouvelle naissance, sans le fait que nous soyons nés de nouveau, nous n'aurions jamais saisi notre état de pécheur. Nous n'aurions jamais compris que nous étions condamnés et que si nous mourions dans cet état, nous en allions directement en enfer. Nous n'aurions jamais compris aussi qu'il n'y avait qu'une seule solution et qu'elle se trouvait dans ton Fils glorieux, la personne de Jésus-Christ et aussi ce qu'il a accompli sur la terre. Alors, Seigneur, permets qu'on découvre de plus en plus toutes les facettes de ton salut qui sont tellement riches et profondes. Permets qu'on découvre de mieux en mieux qui tu es et qu'on apprécie de mieux en mieux aussi ce que tu as fait pour nous et que tu nous donnes, Seigneur, qu'on soit des enfants qui vivent dans la gratitude et qui maintenant honorent ton nom, honorent ta personne par notre comportement et par notre vie sanctifiée. C'est ce qu'on te demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.